Donc bonjour tout le monde. Que vous soyez sur site ou à distance, ou si vous nous écoutez en replay, on peut dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble. D'abord, c'est moi qui vais parler. Exercice de style. Et puis ensuite, après, il y a tout le déroulement qui est organisé par l'université chrétienne, que je remercie. Je remercie l'organisation de m'avoir invité à être là avec vous dans ces moments pour pouvoir aborder un thème qui a l'air évident, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et donc, je vais vous inviter à venir avec moi sur un chemin de réflexion, d'analyse et de clés de compréhension de ce qui peut se passer dans notre monde aujourd'hui. Voilà l'idée de cette intervention. 53 minutes, hein. Mais ok, je vais essayer. Alors, 55. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. 55. Si ça fait 50, vous n'êtes pas contre. D'accord, ok. J'ai donc l'honneur d'être avec vous aujourd'hui, la joie. Et alors simplement, je travaille à l'Institut catholique de Toulouse depuis longtemps maintenant, enfin longtemps, 15 ans. Et je suis sociologue de formation, comme il vous a été dit par Agnès. Et ceci dit, je ne vais pas me contenter de vous parler de sociologie. Je vais aussi aborder d'autres disciplines connexes. En fait, on va parler ensemble des humanités, des plus loin humanités. On va parler ensemble d'anthropologie, de sociologie, voire de psychologie sociale, et de philosophie. Parce qu'il y aura quand même un petit peu de ça aussi, forcément, pour essayer de comprendre le thème que je vous ai proposé, qui est le corps dans notre contemporanéité. C'est-à-dire celle que l'on vit tous actuellement, tous ensemble, tous les vivants que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. Le caractère de ce qui est contemporain, et là, actuellement, c'est ce que l'on vit. Donc, le corps dans notre contemporanéité, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue des sciences humaines et sociales? C'est ça le thème. Si vous êtes d'accord, partons ensemble. C'est parti. Alors, je vous ai mis une planche basique à projeter, enfin, qui est projetée, parce que je sais que des personnes vont réécouter en audio, donc c'est l'exercice de style est particulier. Je m'ai mis de visuel. Le seul visuel que vous avez, c'est celui-là, qui est très bien fait, et je vous le mets exprès. Pour ceux qui nous écoutent, c'est juste le flyer de « Ceci est mon corps », c'est-à-dire les trois journées de l'université d'été. Voilà. Donc cette image qui vient couvrir ce flyer en dit long, en dit beaucoup, et on va essayer de comprendre pourquoi aussi. Donc ça va être l'image de ma conférence, qui est récupérable un petit peu partout. Alors je vais commencer par introduire mon sujet, bien sûr, vous allez voir de manière un peu particulière, pour ensuite aborder trois grandes parties. D'abord les éléments de contexte. Ah, le contexte. Eh oui. Essayons de poser les constats de ce que nous observons actuellement, dans quel contexte sommes-nous. Ensuite, nous irons voir comment se représente le corps dans notre société occidentale. Alors bien sûr, je vais m'attarder sur les travaux qui ont pignon sur rue, il y en a beaucoup qui sont français. Et puis, les représentations du corps sont en lien avec des actions, avec des pratiques, donc nous irons voir les pratiques sociales du corps, les pratiques du corps. Donc les pratiques corporelles. Alors et puis après, on va conclure et ouvrir vers d'autres éléments. Évidemment, vous imaginez bien que c'est un sujet qui a l'air vaste. Oui, il l'est. Donc je l'ai circonscrit à certains éléments. C'est un choix qui a été fait en concertation avec Agnès pour pouvoir amener des éléments de compréhension de notre monde. Des éléments de compréhension de notre monde à travers des acteurs qui nous concernent plus particulièrement, la jeunesse. Particulièrement, il y aura un focus vraiment important dessus, et puis la vieillesse. Donc deux états de la vie, finalement, avec des clés de compréhension, d'analyse, de qu'est-ce qui se passe par rapport au corps, par rapport à ça. Alors, pour introduire cette conférence, je vais vous livrer une phrase. Une phrase qui va peut-être vous dérouter, peut-être pas. Je vous la dis deux fois. Vous nous avez apporté le corps. Je répète, vous nous avez apporté le corps. Cette phrase énigmatique, pour un occidental, va nous amener des éléments de compréhension de quelque chose qui nous est cher en ce lieu, par rapport au contexte de cette conférence, à savoir différence culturelle. Qui a bien pu dire « vous nous avez apporté le corps » ? Eh bien, en fait, cette phrase nous vient d'un récit, d'un récit d'entretien, d'un entretien qui a été fait par un ethnologue français au milieu du XXe siècle, qui s'appelait Maurice Linhart, et qui était allé étudier la culture kanak en Nouvelle-Calédonie. Et en étudiant cette culture, en étant en contact avec la population kanak, le peuple kanak, à un moment donné, il a posé une question à un chef kanak. Nous, finalement, Français, qu'est-ce qu'on vous a apporté ? Et cette réponse de ce chef kanak a probablement, si on se remet dans le contexte d'après-guerre 1947, interloqué Maurice Linhart. Vous nous avez apporté le corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très clairement, d'un point de vue en anthropologie culturelle et sociale, on pourrait analyser ça sous l'idée que, si on étudie la société kanak, on se rend compte que leur vraie représentation du monde, leur vision du monde, n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est rapport au corps, à ce qu'on appelle nous le corps dans ses aspects biologiques, au sens commun du terme, ça n'existe pas chez les kanaks. En fait, quand ils pensent le corps humain, ils pensent l'être humain qui est relié, interrelié au vivant. Ce qu'on appelle, nous, les organes, etc., donc le cœur, etc., sont rattachés au végétal. Tiens, c'est étrange. On ne va pas faire du Montesquieu, mais comment peut-on penser autrement ? Vous savez, rappelons-nous les lettres persanes. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a différentes façons d'être au monde, de se représenter le monde, de concevoir le monde, et donc de concevoir son être au monde, ce qui s'appelle une ontologie. Donc, mon existence au monde va dépendre aussi de ma culture. Voilà quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, rien à voir avec ce que nous, on vit. Alors, je tiens à souligner quand même que le mot corps existe, enfin l'équivalent existe en kanak, mais n'a rien à voir avec ce que nous considérons comme étant le corps biologique. Premier élément. Donc, du coup, ça pose déjà cette idée de différence culturelle. En fonction des cultures, on ne considère pas le corps de la même manière. La société occidentale a une façon de considérer le corps qui est un modèle parmi d'autres. Nombre de cultures n'ont pas la même vision que la nôtre, que ce soit pour corps, esprit, âme, ou que ce soit pour nature, culture. Pour ça, je vous envoie vers les travaux du professeur au Collège de France, Descola, qui a travaillé sur cette notion du vivant plutôt que de nature, culture à la suite de Lévi-Strauss. Alors, quel est notre rapport au corps en Occident dans notre contemporanéité ? Finalement, c'est quoi un corps en Occident ? Qu'est-ce que c'est un corps ? Bon, déjà, si vous tapez dans un moteur de recherche sur Internet, corps, plus loin, CNRTL, Centre National de la Recherche et de Textes Lexicographiques, c'est un site qui émane du CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, CNRTL, vous allez voir défiler devant vous des pages de définitions par discipline de ce qu'est le corps. Donc déjà, il n'y a pas un consensus vraiment établi en fonction des disciplines, quelque chose d'unique. Chaque discipline va dire bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis d'un point de vue philosophique, alors là, parlons-en. Si on prend la tradition, parce que notre définition du corps à nous, avec une vision dualiste, le corps séparé de l'esprit de l'âme, nous vient d'un héritage grec. Alors ça, je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour vous le dire. Un héritage grec qui nous vient de Platon et qui va être mis en connaissance, je veux dire, au plus grand nombre, dirons-nous, par Descartes. Le fameux dualisme cartésien, et qu'on retrouve dans notre société à travers des pratiques médicales conventionnelles. On soigne les corps, pas forcément les esprits et l'âme. D'accord ? Même si des choses bougent, même s'il y a d'autres façons de concevoir les choses, c'est quand même une tradition occidentale. Puis à côté de ça, vous avez une autre façon de penser les choses, qui nous vient notamment, pas que, mais je ne veux pas remonter trop loin non plus, il y a Épicure, et puis il y a Spinoza, qui pensait que le corps et l'esprit étaient les deux attributs d'une même substance. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une séparation entre le corps et l'esprit-âme. Et puis, pour aller au XXe siècle, très simplement, je trace, vous avez Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui, lui, va définir le corps d'une autre manière, qui va nous dire, je cite, « Le corps est celui que je vis comme profondément mien, parce que c'est en lui que je m'éprouve, parce qu'il est le vecteur docile de mes intentions, corps qu'en vérité, je suis plutôt que je ne le possède. » C'est-à-dire que pour Merleau-Ponty, on est le corps plus que l'on a un corps. Donc ça veut dire que le corps inscrit notre existence dans le monde. Il parle de corps propre, qui est donc le corps vécu. Ainsi, on pourrait donner une définition du corps à la façon de Merleau-Ponty qui va nous intéresser par la suite, c'est-à-dire que le corps est un véhicule de l'être au monde. Là, il n'y a pas de séparation stricto sensu cartésienne entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. On va vers quelque chose de plus unifié. Alors, on va s'intéresser donc aux enjeux du rapport au corps en Occident, en se posant la question suivante, qu'est-ce que ça représente un corps dans la société occidentale pour nos contemporains? Comment y est pensé? Alors que le sens commun le lie au biologique, et il y a une vieille tradition par rapport à ça, peut-on le définir au-delà de ce caractère-là? Et puis on va souvent voir quelle valeur on lui accorde. Alors quelle valeur sociale? Pas de valeur économique. On pourrait parler de valeur économique, hein. Il y a des choses. Voilà, en ce moment, comme vous le savez, en termes de bioéthique, il y a des choses, hein, par rapport à valeur économique. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, on va maintenant partir de ce questionnement-là, de cette définition, on va partir sur cette idée de quel est le contexte actuel de notre société contemporaine occidentale par rapport au corps. Alors, l'un des constats dans ce contexte, c'est qu'il y a un souci du corps. On se soucie de son corps. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même une tradition encore dualiste. Hein. On entend des gens dire « j'ai le corps qui me fait mal ». Et pas forcément « je suis mal ». Alors on peut dire aussi « je suis mal dans ma peau ». Mais j'ai aussi « j'ai le corps qui me fait mal ». Donc en fait, on a une espèce de mélange dans la société, on a l'impression. Alors ce qui nous différencie les uns des autres, par rapport à ce souci du corps, c'est que comment déterminer le corps de l'autre? Comment on le détermine déjà? Je pourrais dire, dans cette salle, je vois des corps. Mais on ne dit jamais ça, en fait. À quel endroit on peut dire « je vois des corps dans une salle » ? Excusez-moi, mais dans une morgue. D'accord ? D'accord. Bon, alors, c'était facile. Du coup, on ne dit jamais ça, heureusement. Par contre, on va dire, je vois des hommes et des femmes. J'ai des êtres humains avec moi. Première chose, ça c'est très intéressant. Et ce qui nous différencie du coup les uns des autres, qu'est-ce qui détermine monsieur de madame, comment je fais pour, qui sont en face de moi, comment je fais pour déterminer qu'ils ne sont pas, enfin, que ce sont deux êtres distincts? Il y a quelque chose de visuel, de très visuel, qui me permet de le faire, c'est la peau. L'apparence corporelle, la peau. La peau, c'est ce qui me différencie de l'autre. C'est ce qui fait que je suis moi, mais aussi, biologiquement, mais aussi ce qui me différencie de l'autre. Ça, vous trouvez ça chez quelqu'un qui s'appelle David Le Breton, qui est un sociologue et anthropologue qui a travaillé sur le corps. Alors, il y a quelque chose de très intéressant quand on parle de souci du corps. Historiquement, en Occident, c'est qu'on est passé d'un corps instrument de travail, travail des champs, par exemple. Moi, je dis ça comme ça. On est passé du corps instrument de travail au travail sur le corps. Oui. Voilà. Travail sur le corps, par quoi? Par des pratiques physiques, sportives, une pratique alimentaire liée à la santé, au bien-être, par du fitness, du yoga, etc., etc. Donc il y a toute une évolution, alors, il y a à la fois une évolution, mais aussi quelque chose qui est concomitant. Tout ça, ça se vit aussi en même temps. Mais de manière massive, on n'est plus dans les travaux des champs, dans le travail des champs comme auparavant, comme avant-guerre, ou un tout petit peu après la guerre, avant l'industrialisation massive et tout ce que vous voulez. Mais quand même, il y a quelque chose là qui se retrouve. On a toujours des gens qui travaillent, qui utilisent leur corps, qui utilisent leur être pour faire des choses pénibles, dirait-on. Alors, ce souci du corps, dans notre monde occidental, s'incarne dans une postmodernité. Ce que les philosophes, nombre de philosophes appellent la postmodernité. En sociologie, on peut l'utiliser aussi. Des gens comme Fessoli l'utilisent, mais bien d'autres. Ou bien, il y a d'autres termes qui existent. Transmodernité, hypermodernité, enfin, il y en a plein. Seconde modernité. On ne va pas s'étendre là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir de quoi on parle, quand même. Parce que derrière tous ces termes qui se ressemblent, avec des petites nuances, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. La postmodernité, si on la définit comme Lyotard peut le faire en philosophe, c'est la fin des grands récits qui donnent du sens à la vie. La fin des grands récits. C'est lié aussi à la sécularisation. Donc, évidemment, c'est un héritage de la modernité. La modernité, c'est une période, vous savez, qui va du 16e. On va dire jusqu'aux années 60, à l'époque de la postmodernité, pour faire simple. Modernité qui avait trois éléments importants pour la comprendre. Le rationalisme, l'avènement de la raison, donc c'est Descartes, etc. Le matérialisme, au détriment du volet spirituel, donc sécularisation. Et l'individualisme. Alors là, par rapport à l'individualisme, dans ces constats-là, je vais vous énoncer quelque chose qui me semble, à moi, très intéressant et que je vais vous livrer tout de suite. L'individualisme, c'est, dans le sens courant, dans le sens médiatique, dans le sens politique, ce n'est pas du tout ce qui est utilisé au niveau scientifique, enfin, au niveau de la recherche. L'individualisme, c'est en sociologie en tout cas, c'est un mouvement. Un processus historique qui démarre depuis le XVIe siècle, où on a l'individu qui essaie de s'extirper des groupes. Moi, je vais le dire à ma manière, comme ça, d'un air de dire j'existe moi aussi. Le groupe a beaucoup d'emprise sur moi, mais moi, en tant que sujet, j'existe aussi. Et je suis où, moi? Donc en fait, l'individualisme, c'est au sens propre du terme, au sens sociologique du terme, c'est juste les individus qui veulent exister par rapport au groupe. Donc ce sont des individus qui cherchent à être plus libres. Donc c'est un apport de liberté vers l'autonomie. Ce n'est pas synonyme d'égoïsme, alors qu'on entend souvent ça. Oui, mais il a des pratiques individualistes. Ça veut dire quoi? Ben, c'est égoïste. Ben non, en fait non. L'égoïsme s'oppose à l'altruisme. D'accord? Alors, du coup, on trouve ça chez des auteurs comme Anthony Giddens. Je vous donne les auteurs aussi, hein, j'en profite. Donc, et je pourrais vous donner toute la bibliographie après, si vous voulez. Anthony Giddens et François de Singly. Alors ça, je vais vous en parler tout de suite. Souvent, quand on parle de François de Singly, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « L'individualisme est un humanisme ». Ça peut paraître étrange, mais par rapport à ce que je viens de dire, pas tant que ça, du coup. Parce que si on prend égoïsme, ça marche pas. Mais si ce que je viens de dire, si on prend ce que je viens de dire, par contre, ça peut marcher. On se rend compte qu'il y a une réflexion assez aboutie. Quand on pense à l'individualisme, On pense au règne de la concurrence généralisée, de la guerre de tous contre tous, de la compétition à outrance et du libéralisme économique, ensemble de doctrines, hein, liées au capitalisme. Pourtant, c'est oublier que l'individu occidental est tout autre chose. Avoir, par exemple, le droit d'aimer quelqu'un sans intervention de quiconque. Le droit d'aimer quelqu'un sans avoir d'intervention familiale, comme ça a pu être le cas dans le passé. Le droit de choisir son conjoint, de choisir qui aimer. Ça n'a pas toujours été le cas. Premier élément. Alors, ce n'est pas du tout normatif, hein, ce que je dis, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste des études qui sont faites ainsi. Le droit d'aimer quelqu'un sans intervention, donc ça veut dire avoir des relations électives. J'élis qui je veux pour l'aimer. C'est ça que ça veut dire. Avoir le droit de participer à une élection démocratique. Ça n'a pas toujours été le cas. Avoir le droit de décider soi-même de sa vie. De prendre des décisions concernant sa propre vie. Ça n'a pas toujours été le cas non plus. Donc cette idée d'individualisme, c'est plutôt celui-là. Et du coup, évidemment, cette liberté exige des conditions sociales particulières. Il faut quand même aussi avoir un vivre ensemble. On sait très bien que pour vivre ensemble, on a besoin de lois, par exemple, pour que permettre justement le fait que les droits puissent s'appliquer, les droits de chacun. Donc on a besoin d'un vivre ensemble, de vivre avec les autres. Mais ceci dit, l'individu doit avoir les moyens de devenir lui-même et il ne doit pas subir de discrimination. Alors là, nous dit François de Singly, l'individualisme devient un humanisme. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses et c'est assez intéressant à étudier. Du coup, appliqué au corps, je veux être bien dans ma peau, je prends soin de moi, j'existe. Regardez cette fille sur le flyer. Cette femme, tout simplement. Elle a l'air bien dans sa peau, hein, sans problème. À partir de là, on va se poser la question suivante, mais comment se représente le corps dans notre société? Quels sont les grands éléments? Je vais vous donner des mots, quelques mots. Donc ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un récit, c'est quelques mots. Il s'agit d'être jeune, beau, belle, musclée, mince, bronzée. Voilà ce que la société aussi peut nous renvoyer. On va voir par qui, hein, quelles sont les influences. Voilà quelque chose de très intéressant. Ok. Donc je répète, il s'agit d'être jeune, beau, belle, musclée, mince, bronzée, puis j'en passe. Ça peut être des principes de référence auxquels on accorde de l'importance. Alors, jeune, c'est pas un principe de référence, on peut pas se dire c'est comme ça, c'est un état de la vie. Donc voilà. Mais être beau, belle, musclé, mince, bronzé, ça peut être un principe de référence auquel on accorde de l'importance, qu'on peut appeler une valeur sociale. Mais ça peut se transformer en norme. Ça peut devenir normatif, prescriptif. Tu dois être comme ça pour être comme tout le monde. Si tu veux être vu, être inséré dans la société, alors... Et donc tu vas faire ce qu'il faut pour être comme ça. Et là, on a un schéma de conduite socialement accepté qui est attendu de nous, ce qu'on appelle une norme sociale. Alors, les deux définitions que je viens de donner, valeur et norme sociale, nous viennent notamment de Jean de Meung, qui est un universitaire à l'Université catholique de Louvain. Du coup... cette espèce de diktat avec un K, diktat, ce culte exacerbé, cette obligation d'être comme les autres, renvoie aussi à une société de l'image. Nous sommes dans une société du regard de l'autre, de l'image, une société même du spectacle. Spectacle vient de spectaculum. En latin, c'est montrer. Alors, spectaculare, c'est montrer. Je montre. Société du spectacle où il s'agit de se mettre en scène. Quand on est tout seul devant sa glace, chez soi, On n'a pas le même regard sur le monde que quand on est déjà à deux dans une pièce, voire presque 50 personnes dans une salle. Ça n'a rien à voir. Le regard change. Le regard sur moi, sur moi-même change. Et le regard des autres me change. Et je peux aussi changer le regard des autres. C'est-à-dire qu'on a, on pratique, enfin, on, il y a une influence par interaction qui peut se créer à ce moment-là. Dans notre société occidentale, j'entends toujours. Hein. Voilà. Du coup, un culte de l'apparence est présent. J'ai utilisé un diktat de l'apparence. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que le paraître l'emporte sur l'être. Vous savez, j'ai la chance d'avoir pu faire ce que je voulais dans ma vie. J'ai eu des parents extraordinaires. J'ai des parents extraordinaires. J'ai ma mère qui est là. Enfin, j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Je suis ravie. Encore merci pour ça. Et je suis émue en le lisant. Parce que, en fait, voilà, j'ai toujours voulu faire ce que je fais. Et en fait, quand je travaille avec mes étudiants, moi, j'ai travaillé dans le public et à la Cato de Toulouse. Je leur fais faire un exercice à tous chaque année. Je leur demande, voilà, je vous donne des verbes. Et d'ailleurs, je vais en rajouter un cette année. Je vous donne des verbes. À votre avis, que renvoie la société, que nous renvoie la société et qu'est-ce que vous voudriez, vous? Les verbes que je leur donne, c'est être, avoir et faire. Vous savez, les jeunes ne sont pas dupes. Hein. Les jeunes, ils comprennent hein, ce qui se passe. Les jeunes, ils vous disent, ben, la société nous renvoie, tu as, tu fais, tu es. A fait pour être. Et alors, vous, qu'est-ce que vous voudriez? Et là, ça fait 20 ans que j'enseigne. Ça fait 20 ans que j'entends être, faire, avoir. Et alors après, vous en concluez ce que vous voulez. Est-ce que c'est un message d'espérance ou ça, c'est vous qui voyez, mais voilà, c'est pour vous dire. Eh bien, moi, je vais rajouter paraître maintenant. Je vais rajouter paraître. Parce que vous savez, nos jeunes là qui arrivent dans l'université, ce sont des jeunes qui ont connu dans les lycées, je travaille aussi dans l'éducation, qui ont connu dans les collèges lycées, à l'âge de l'adolescence, des catégories sociales. Un étiquetage, une stigmatisation parce qu'ils ne sont pas dans la norme. Et certains ont connu des choses assez violentes. On entend les catégories bolos et populaires, choses comme ça. C'est-à-dire que, alors, à notre époque, ça pouvait être les intellectuels, les intellos, et puis les cancres, mais ça a changé tout ça. C'est devenu vraiment violent. Oh, j'ai pas dit que c'était pas violent avant, hein. Tout dépend. Mais là, c'est violent. Et l'idée, c'est que ces étudiants ont besoin aussi de déconstruire un peu tout ça. Et donc, je vais rajouter le mot paraître. Parce qu'en fait, là, on se rend compte que le paraître l'emporte sur l'être. La société nous renvoie quelque chose comme ça. Et ça pose question, nous, en tant qu'êtres humains. Alors évidemment, ça peut provoquer des troubles, je vais dire ça comme ça pour ne pas poser de jugement, des troubles de l'alimentation, des jeunes femmes et des jeunes hommes, et beaucoup de jeunes femmes, tombent dans ne se nourrissent plus et entrent dans l'anorexie, par exemple, l'anorexie boulimie. Donc des troubles alimentaires. Alors ce n'est pas la seule raison, bien sûr, mais c'est une des raisons importantes à prendre en compte. Alors, évidemment, dans ce culte de l'apparence, on a les canons de la beauté et de la minceur, c'est-à-dire un idéal esthétique. Mais la beauté n'est-elle pas subjective? Bon, moi je dis ça, je dis rien. À titre d'illustration, je voudrais vous raconter quelque chose. Il y a un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann qui a fait une étude sur les pratiques de plage, l'exposition sur les plages. Et donc, il s'intéressait au monokini. Et donc, il est allé interroger notamment des jeunes femmes qui étaient donc seins nus, et pour leur demander quels étaient leurs critères de beauté. Et là, donc des jeunes femmes, hein, entre 20, enfin à peine 20 ans, jusqu'à 25 ans à peu près. Ces jeunes femmes étaient en accord avec elles-mêmes et avec certaines normes, avec des mesures bien précises, des seins, etc., de corps, d'accord? Sans aucune, et d'aucune manière en prenant conscience qu'elles-mêmes allaient sortir de cette norme. Aucune n'a verbalisé l'idée qu'elles allaient prendre de l'âge et que le corps va se transformer, puisque nous sommes en métamorphose. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Nous sommes en métamorphose permanente, puisque tous les jours, nous avons des cellules qui disparaissent et d'autres qui naissent. Nous perdons de la peau, les cellules de la peau, etc. Ça se reconstruit. En permanence, nous sommes en métamorphose, comme la chenille qui devient papillon. Les mêmes, mais différents. Je reste Christelle, mais de jour en jour, je n'ai plus la même apparence. Alors, ça se ressent de jour en jour. Il faut voir sur 10 ans ou 20 ans, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, voilà, c'est ça l'idée. Et donc, il n'y a pas de prise de conscience. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal. Enfin, normal, ça ne veut rien dire normal. Quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Oui, mais ces personnes, comment vont-elles vivre? Ces personnes, comment vont-elles vivre le fait de prendre de l'âge? Et que leur apparence change. C'est un vrai travail réflexif, là. En gros, nous avons un mythe de la jeunesse éternelle, hein. On va pas se mentir. Alors, il y a des influences à cela. Moi, j'en vois plusieurs. Il y a déjà l'influence du marché, la marchandisation, la puissance économique à travers les publicités relayées par les médias. L'industrie de la mode, on pourrait parler de la mode, hein. On pourrait parler des mannequins. Hein. Vous savez que là où on pensait que ces pratiques étaient abolies, ça revient. Par exemple, pour les mannequins, c'est pas le vêtement qui s'adapte au mannequin. C'est le mannequin qui doit s'adapter au vêtement. J'entendais encore récemment des mannequins témoigner de cela. C'est ce qu'on appelle des individus, enfin, des porte-manteaux. C'est pas moi qui dis ça, c'est dans ce milieu, on les appelle comme ça. Industrie de la mode, industrie des cosmétiques, les régimes, amaigrissants ou pas d'ailleurs, la chirurgie plastique. Voilà, il y a tout un pan de l'économie qui s'est emparé de l'apparence, finalement. Deuxième élément, évidemment, alors, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose, en lien bien sûr avec une société de consommation qui est née depuis les années 60 et qui est là dans une hyper-consommation. Alors, consommer, consommons, consommer, enfin tous les verbes, tous les temps, voilà, tout le temps. Deuxième élément, pour comprendre en termes d'influence, c'est les réseaux sociaux numériques. Les réseaux sociaux ont existé avant les réseaux sociaux numériques, hein. Puisque le fait d'avoir des relations et des relations de relations de relations, c'était déjà l'ancêtre des réseaux sociaux, mais il n'y avait pas la technologie. Voilà. Les réseaux sociaux pour les adolescents qui sont très puissants, des réseaux comme Instagram, TikTok et ce genre de qui sont avec comme pour cible les jeunes et qui ont des influenceurs qui travaillent, enfin qui véhiculent, pardon, des éléments de cet ordre-là. Et puis il y a tout simplement ce qu'on appelle la pression sociale. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le conformisme. Conformisme, c'est-à-dire que je vais faire comme les autres, entrer dans une norme, pour plusieurs raisons. Alors, il y a un psychologue social qui s'appelle Kellman qui en a donné plusieurs, mais moi j'en vois deux. C'est être comme tout le monde, être tranquille, être dans un ensemble. Être comme tout le monde. Ou bien, au contraire, je veux appartenir à un groupe. Donc, dans le premier cas, je ne veux pas de problème, je veux ressembler à tout le monde. Et deuxième élément de compréhension, d'analyse, c'est je veux appartenir à un groupe et dans ce groupe, il faut être comme ci ou comme ça. Donc, je vais faire en sorte d'être comme ci ou comme ça pour faire partie du groupe. Voilà. Ça, c'est. Il y a deux grandes, à mon avis, deux grandes. Raisons de se conformer qui sont celles-là. Et puis, évidemment, ce conformisme peut avoir des effets uniformisant, forcément. Donc là, où est la particularité de l'être humain? Sommes-nous des clones? À ce que je sache, non. Ne sommes-nous pas tous différents? D'accord, il y a un génotype humain. La génétique a démontré qu'il y a Homo sapiens en lien avec la paléoanthropologie. Il reste Homo sapiens. Il y a eu Erectus, il y a eu Néandertal, il y en a eu plein d'autres. Il y avait plusieurs races d'hommes, il n'en reste plus qu'une. C'est Homo sapiens. On est tous Homo sapiens ici, partout sur Terre. Il n'y a pas d'autres races d'hommes. Il y a une seule race et espèce humaine. L'espèce humaine, c'est Homo sapiens. Donc on a un génotype commun. Mais on a des phénotypes différents. La couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de peau, la taille, etc., etc., etc. Toutes les caractéristiques physiques. Donc on est tous très différents d'un point de vue de l'apparence, et puis aussi dans ce que l'on est. Et parce qu'on est aussi éduqué dans des cultures différentes, dans des milieux différents. Donc vous voyez, c'est bien plus complexe que ça, en fait. Du coup, tous ces éléments m'amènent à poser la question de la norme, finalement, de la valeur de l'homme en amont. L'homme avec un grand H, hein, l'être humain. Quelle vision de l'homme, de l'être humain, de la personne, avons-nous avec le culte de l'apparence si présent? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Mais c'est une vraie question. En tout cas, c'est pour réfléchir. Quelle est la valeur du corps vieillissant, des personnes vieillissantes? C'est quoi leur valeur sociale, du coup? Puisque c'est jeune, beau, belle, musclé. Quelle est la valeur sociale de la personne qui a une déficience et qui est handicapée et qui a une situation de handicap, socialement parlant? Elle est où, sa valeur sociale? C'est des vraies questions, hein. Il me semble. Et donc, quelle valeur porte-t-on la différence? Peut-on être différent alors qu'on l'est déjà? Mais peut-on être accepté comme différent? Je vous avais dit, hein, ce serait aussi très anthropologique. Du coup, tous ces éléments peuvent, si on n'y fait pas attention, si on n'est pas attentif, amener des stéréotypes, des idées toutes faites sur les gens, sur les personnes. Des stéréotypes, voire des préjugés. Ça peut amener même des discriminations. Donc c'est un point de vigilance à ce sujet-là. En tant qu'êtres humains qui vivons dans des sociétés, donc avec un bien commun, avec des aspects communs qui nous relient. Du coup, les représentations sont liées à l'action, sont liées à des pratiques, et de fait, l'idée, c'est que entretenir son corps, modeler son corps, réparer le corps, voire augmenter le corps, ça peut se faire par des mises en jeu du corps. Tout à l'heure, je disais de pratiques physiques, de sport, d'alimentation, de santé, de bien-être. Et puis, ça peut passer par d'autres éléments. Ça peut passer par... je vais vous parler des personnes vieillissantes et puis des plus jeunes. Plus on avance en âge et moins on ira vite pour faire les choses. Ce qu'on appelle la déprise en sociologie. On veut faire les mêmes choses. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a un monsieur qui a 100 ans, je crois, quelque chose comme ça, qui continue de courir. Bah, il court moins vite que ce qu'il faisait quand il avait 20 ans. Bien sûr, mais il court toujours. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'intensité, c'est l'intensité qui baisse. On fait toujours des choses, mais de manière moins intense. Je vous donne un autre exemple qui me plaît beaucoup, hein, excusez-moi. Edgar Morin. Edgar Morin, sociologue, anthropologue et philosophe, 102 ans le 6 juillet prochain, qui continue de réfléchir. D'écrit, il a encore sorti un livre avec son épouse récemment. Et il y a un centre Edgar Morin pour la complexité et la métamorphose qui s'est créé à Toulouse Capitole la semaine dernière. Et il était là, en visio, il a parlé un quart d'heure. 102 ans. Alors, il continue de faire les choses, mais comme il dit, moins vite, moins intensément, mais il continue un peu tous les jours. C'est la déprise. Donc, on peut continuer de faire des choses, heureusement. Heureusement. Du côté des adolescents, à côté des pratiques dont je viens de parler, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, il y a une quête d'identité. Alors, nous, les êtres humains, comme nous le savons, nous sommes des êtres fragiles. L'existence est fragile. Là où ça devient encore plus problématique, c'est quand on devient vulnérable. Ça, ce sont des thèmes qui nous importent à l'Institut catholique de Toulouse. Et donc, du coup, des adolescents peuvent être des êtres vulnérables. Quand ils sont harcelés à l'école, quand ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, par exemple, et qui, pour certains d'entre eux, ne le supportent pas, ça peut aller très loin, comme vous le savez. D'autres vont pas si loin, mais vont, par exemple, se tatouer, mettre des piercings aux grandes dames des aînés, de leurs aînés, des parents, etc. Mon Dieu, mais tu ne vas pas faire ça. Ben oui, forcément, on n'a pas vécu la même chose. On n'a pas les mêmes codes. La société a évolué. Il y a une génération d'écart. Donc, ce qui peut nous paraître étrange à nous, ça ne l'est pas pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, David Le Breton, justement, ce sociologue et anthropologue, a travaillé sur les tatouages et les piercings et les scarifications. Ce qu'on appelle les marqueurs tégumentaires. Tégument, vous savez, c'est la partie externe de la peau. Et donc, il nous explique que ce soit au niveau des tatouages ou des des tatouages ou des piercings, on a une volonté qui est annoncée par les adolescents de chercher leur identité, chercher qui ils sont. C'est un marqueur social d'appartenance à une communauté humaine, je dirais, si vous voulez. Et c'est comme un rite de passage. Vous savez, dans les tribus, dans les sociétés premières, on parle de rite de passage, on marche sur le feu, etc. Mais c'est leur rite de passage à eux. Cette impression de « ça y est, je vais devenir adulte ». D'ailleurs, comme dit David de Breton, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les piercings, on voit qu'ils sont principalement situés au niveau, la plupart du temps, de la bouche et du nombril. C'est avec cette idée, cette métaphore, avec l'idée derrière que je rentre dans l'âge adulte en coupant le cordon ombilical. Hein, on regarde les deux attributs de la bouche et du ventre. Quant aux clarifications, là on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui est sur une volonté de disparaître de soi. Je cite David Le Breton. Bien souvent, les adolescents qui se scarifient, donc, d'accord, ça peut faire peur. Hein. Et d'après les études qu'il a pu mener, il a montré que, en fait, c'est se faire mal, avoir une douleur pour remplacer une autre douleur. Un proche qui va mal, quelque chose qu'il a vu, qu'il a mal accepté, ce genre de choses. Et donc, on se scarifie. Et la scarification permet, par la douleur, de supprimer la première douleur. Vous voyez, c'est comme quoi le corps n'est pas tout seul, hein. Il y a quelque chose qui le permet de. De fait, il y a aussi évidemment comment on appelle ça, ces moyens d'expression individuelle. On a aussi, je passe aussi sur les bijoux, bien sûr. Le piercing est une forme de bijou. Hein. On a aussi cette idée de quelque part, comment dire ça. À travers ces modes de moyens d'expression, je recherche ma phrase, excusez-moi, dans ma tête, individuelle, on a aussi deux éléments, soit une volonté d'esthétisme aussi, parce qu'ils peuvent trouver ça beau, hein, le tatouage, ils vont faire des jolies choses, quelque chose d'esthétique, voire de rébellion, selon les groupes qui sont pu se faire tatouer dans l'histoire. Selon les cultures, on a des techniques du corps différentes. Techniques du corps différentes. Alors, ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss, M-A-U-2-S, qui a étudié ça au début du XXe siècle et qui a écrit un tout petit article qui s'appelle « Les techniques du corps ». Et en fait, il démontre que, à son époque, les façons de bêcher dans les tranchées, bon, c'est pas très drôle, hein, 14-18, hein, ouais, oui. Les façons de bêcher des Anglais et des Français n'étant pas les mêmes, il a fallu que les Anglais aient cherché d'autres bêches pour pouvoir construire leurs tranchées. Parce que la façon de bêcher n'était pas la même. parce que l'instrument n'était pas le même et la façon de pêcher non plus. Les façons de nager à son époque n'étaient pas les mêmes d'une culture à l'autre. Pourtant, bon, ça va, nous on voit la brasse, on voit à peu près ce que c'est, le croc, le dos, le papillon. Oui, mais à son époque, on nageait la brasse, la tête au-dessus de l'eau, et en faisant comme une machine à vapeur. Vous voyez, en expulsant, comme ça. Imaginez un petit peu. Donc ça s'est uniformisé depuis. N'empêche que la façon de pratiquer certaines activités du quotidien sur les cultures n'est pas la même. Les façons de marcher varient d'une culture à l'autre. Alors que marcher, ça a l'air anodin, hein, et naturel, et comme tout le monde. Non. Dans certains pays, on ne marche pas de la même manière. Alors ça, on l'a gardé dans les marches militaires. Ça, c'est vraiment l'exemple flagrant. La marche militaire américaine n'est pas la même que l'anglaise, que la française, que l'allemande, etc. Donc le rythme n'est pas le même. Donc les façons de marcher ne sont pas les mêmes. Alors ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que d'après Marcel Mauss, la biologie n'est pas suffisante pour comprendre ce qui se passe, parce que autrement on marcherait tous de la même manière. Donc il y a des éléments sociaux à prendre en compte, donc l'éducation culturelle ou la culture tout simplement dans laquelle on est, qui sont importantes à comprendre. Il faut dire aussi qu'à son époque, on était dans un monde où on expliquait au niveau de la recherche les choses de manière biologique et psychologique uniquement. Et donc c'était tout d'un coup l'apport de l'anthropologie qui apparaissait pour comprendre aussi l'homme dans quelque chose de plus global. Marcel Mauss parle d'homme total. Là où maintenant, nous, on va parler d'intégral, qu'on fait les textes. Évidemment, il y a un autre élément qui est important à comprendre si on parle de culture et d'éducation. C'est ce qu'on appelle la socialisation. C'est l'intériorisation des valeurs et des normes sociales d'une société donnée. Donc il y a des valeurs, des normes sociales qui sont proposées par une société via l'éducation, via la famille, via l'école, via les pères, via IRS, via les médias, voilà. À partir du moment où il y a contact avec les autres, à partir du moment où je suis en relation avec les autres, eh bien, il y a des éléments d'interaction, soit qui me soient imposés, soit par interaction. Et l'idée, c'est que quand les normes sont intériorisées, on appelle ça un habitus, terme que va utiliser Mauss, mais c'est un vieux terme latin, et qu'on va retrouver aussi chez quelqu'un comme Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui va parler d'habitus culturel, d'habitus de sexe, d'habitus de classe. Je donne un exemple. En fonction de son milieu social, on n'a pas la même façon, forcément, d'appréhender la santé. Alors, je vous donne un exemple issu de ces travaux-là. Il y a un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski qui a montré la chose suivante. On n'utilise pas son corps de la même... Enfin, c'est pas bien dit, mais on n'utilise pas... Mais je vais le dire comme ça parce qu'on est en Occident, je peux me permettre. On n'utilise pas son corps de la même manière si on est un ouvrier ou un cadre. Alors, il a montré, par exemple, que dans les 70, et ça marche au jour de nos jours, si on est ouvrier et qu'on s'est fait mal, on va mettre du temps, plus de temps qu'un cadre, à aller aux urgences. Et il n'est pas rare de voir des ouvriers avec des entailles, voire de l'infection, qui ne sont pas allés se faire soigner. Mais alors, ça vient d'où, ça? La dureté au mal. La dureté au mal. Alors après, il y a l'éducation qui peut y avoir derrière. Quand on est un petit garçon, on ne pleure pas. C'est rien du tout, ça va passer. Et ça, quand on grandit, on l'a intégré, en fait. Et donc, ça veut dire que dans la consommation, c'est mal dit, mais la fréquentation des urgences, eh bien, on voit plus de cadres ou d'enfants de cadres que d'ouvriers ou d'enfants d'ouvriers. Comme quoi, vous voyez, c'est assez intéressant. Pour conclure, je vais vous donner quelques éléments pour aller plus loin. Déjà, pour revenir sur ce que j'ai dit, il me semble qu'il y a deux grandes tendances. Une tendance vers une conformité à l'apparence. Conformité vers l'apparence, ou pas, à l'apparence, par l'apparence, comme vous voulez. Et puis, le corps comme vu comme moyen d'expression individuelle. Le corps est un produit du social et c'est aussi un producteur de sens, mais il relève d'une complexité à la fois interne, complexe, Dieu seul sait que l'intérieur de notre corps est complexe, hein, et externe, puisque de fait, étant interreliés aux autres, ça joue sur le volet social, mais aussi psychologique. Et donc, c'est pour ça que là, je me permets de parler de... Je reviens sur Marcel Mauss et je vais revenir aussi sur l'homme intégral, parce que c'est toute la prise en compte de cette complexité qui peut peut-être permettre de comprendre qui nous sommes, finalement. Ça, c'est une vaste question. Le rapport au corps en Occident est influencé par différents facteurs, donc comme la culture, l'histoire, les médias, les normes sociales. Ça, c'est vraiment quelque chose de prégnant, de pesant, d'important à comprendre. Pourquoi, voilà, vraiment en termes de clé d'analyse. Les avancées technologiques, mais aussi le regard porté sur soi et au final, mais, ceci est mon corps, je suis moi et j'exprime qui je suis. Alors, je n'ai pas parlé de notre thème, mais je vais le mettre en ouverture. Moi, je me pose une question, mais je n'ai pas la réponse, parce qu'on n'est pas encore dedans, donc je ne me suis pas permise de l'intégrer, vu que ce n'était pas tout à fait le thème. Mais quand même, on nous parle d'homme augmenté. On nous parle de transhumanisme. Moi, je me pose la question, on n'y est pas encore, pas tout à fait. Je me pose la question suivante. Est-ce que ça va être un pharmacon? En grec, c'est-à-dire à la fois un remède et un poison, tout dépend du dosage. C'est-à-dire que ça peut être une solution vertueuse pour les personnes qui sont, par exemple, en situation de handicap particulier et qui peuvent retrouver l'usage de quelque chose. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, que va devenir l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain dans ces conditions? Notre identité, qu'est-ce qu'elle devient, notre identité? Je ne sais pas. C'est une vraie question que je me pose. On n'y est pas encore, je sais, mais je me la pose. Et donc, quel rapport à l'être humain on va avoir? Et l'homme occidental, quel rapport à son corps? Est-ce qu'on va toujours appeler ça un corps? Point d'interrogation. L'avenir, peut-être, nous le dira. Merci beaucoup.